Chapitre 50, l'ouvre pour notre temps. Nous sommes sur le seuil d'événements solennels. Les prophéties s'accomplissent. Une histoire étrange et mouvementée s'inscrit dans les livres du ciel. L'agitation est universelle. Les nations sont irritées et le temps est venu de juger les morts. Les événements se précipitent pour préparer le jour de Dieu qui se hâte. Il ne reste plus que peu de temps. S'il n'y a pas encore de mêlée générale, déjà une nation s'élève contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Les quatre vents sont encore retenus jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front. Alors les puissances de ce monde uniront leurs forces en vue de la dernière et grande mêlée. Satan est activement occupé à préparer des plans en vue du dernier grand conflit auquel prendront part tous les peuples de la terre. Bien que l'Évangile ait été prêché dans le monde depuis bientôt 2000 ans, Satan fait miroiter aujourd'hui encore aux yeux des hommes la même scène qu'il présentait au Christ. Avec un art consommé, il étale devant eux les royaumes du monde et leur gloire, et en promet la possession à ceux qui fléchiront les genoux devant lui et l'adoreront. C'est sa manière d'attirer les hommes sous sa domination. Le grand adversaire fait tout ce qui est en son pouvoir afin de se faire passer lui-même pour Dieu et de détruire tous ceux qui s'opposent à sa domination, de sorte qu'aujourd'hui le monde entier se prosterne à ses pieds. Sa puissance passe pour être celle de Dieu. C'est ainsi que la prophétie d'Apocalypse reçoit son accomplissement, toute la terre était en admiration derrière la bête. Dans leur aveuglement, les hommes se vantent de merveilleux progrès, de lumières nouvelles. Mais les yeux de l'omniscience pénètrent toute leur dépravation et toute leur culpabilité. Les anges voient que la violence et le crime remplissent la terre. Les hommes ont recours à toutes sortes de moyens pour s'enrichir. Ils pillent non seulement leurs semblables mais Dieu lui-même, et ils se servent de ses biens pour satisfaire leur égoïsme. Tout ce dont ils peuvent s'emparer ne fait qu'augmenter leur rapacité. L'avarice et la sensualité prévalent. Les hommes aiment les attributs du grand séducteur. Ils l'ont accepté comme Dieu et sont imbus de son esprit. Mais la nuée de la justice rétributive de Dieu, grosse des éléments qui ont détruit Sodome, est suspendue au-dessus de leur tête. Dans ses visions apocalyptiques, Jean a vu cela, et il lui semblait que le monde entier se tenait sur le bord de l'abîme de la perdition. Mais, tandis qu'avec un intérêt intense, il considérait la scène, il vit le groupe des observateurs des commandements de Dieu ayant sur le front le sceau du Dieu vivant, et il dit, « C'est ici la persévérance des saints, qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Puis il continue, « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs ouvres les suivent. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille, et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre. Et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant, lui aussi, une faucille tranchante. Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Avant qu'il ne soit trop tard. Quand la colère de Dieu s'abattra sur le monde, bien des âmes devront constater avec effroi que leur maison a été emportée parce qu'elle était bâtie sur le sable. Portons-leur l'avertissement avant qu'il ne soit trop tard. Nous devrions sentir notre responsabilité et travailler avec une entière consécration pour communiquer à nos semblables les vérités que Dieu nous a révélées pour notre époque. Ne craignons pas de nous montrer trop empressés. Dieu est ému de compassion. Les âmes lui sont précieuses. C'est pour ce monde que Jésus a pleuré dans l'agonie de Gethsémané, pour ce monde qu'il a été crucifié. Dieu a donné son Fils unique pour sauver des pécheurs, et il désire que nous aimions nos semblables comme il nous a aimés. Il désire voir ceux qui ont quelque connaissance des vérités de l'Évangile les communiquer à leurs semblables. C'est maintenant le moment de publier le dernier message d'avertissement. La proclamation de la vérité est aujourd'hui accompagnée d'une puissance spéciale. En sera-t-il longtemps ainsi? Non, le temps sera court désormais. Si une crise a jamais sévi sur le monde, c'est maintenant. Chacun décide aujourd'hui de son sort éternel. Les hommes ont besoin de se réveiller pour se rendre compte de la solennité de l'époque actuelle, car le temps de grâce touche à sa fin. Des efforts résolus devraient être faits pour attirer l'attention du monde sur la proclamation du message pour notre temps. Le troisième ange doit aller de l'avant avec puissance. Que personne ne soit dans l'ignorance à ce sujet, ou ne soit tenté de considérer cet ouvre à la légère. La lumière que nous avons reçue concernant le message du troisième ange est la véritable lumière. La marque de la bête est bien ce qui a été proclamé à cet égard. On n'a pas entièrement compris ce sujet et on ne le pourra avant que le rouleau n'ait été déroulé, mais une ouvre solennelle doit s'accomplir dans le monde. L'ordre du Seigneur à ses serviteurs est, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Les traits généraux de notre ouvre ne doivent pas subir de changement. Notre organisation doit demeurer aussi claire et aussi distincte que la prophétie l'a indiqué. Nous ne devons pas nous liguer avec le monde en vue d'arriver à de meilleurs résultats. Ce qui s'oppose à l'avancement de l'ouvre d'après les directives données par Dieu, déplaise à Dieu lui-même. Aucune parcelle de la vérité qui a fait des adventistes du septième jour ce qu'ils sont ne doit perdre de sa force. Nous possédons les vieilles bornes de la vérité, de l'expérience et du devoir et nous devons tenir ferme pour la défense de nos principes à la face du monde. Il faut que soient suscités des hommes qui ouvriront les oracles de Dieu à la face de tous les peuples, des hommes de tout rang et de toute capacité, de dons variés et qui agiront de concert en vue d'un résultat commun. Ils s'uniront dans l'ouvre qui consiste à porter la vérité au monde, chacun accomplissant la tâche qui lui a été désignée personnellement. Les messages des trois anges. Les trois anges d'Apocalypse 14 sont représentés comme volant par le milieu du ciel, symbolisant ainsi l'ouvre de ceux qui proclament le premier, le second et le troisième message. Ces messages sont liés les uns aux autres. Les témoignages de la vérité immuable et éternelle qui caractérisent ces messages sublimes, messages qui sont d'une si grande importance pour l'Église et qui ont suscité une si violente opposition dans le monde religieux, n'ont rien perdu de leur vigueur. Satan cherche constamment à projeter une ombre sur ces messages pour que le peuple de Dieu ne puisse en discerner l'importance et l'opportunité, mais ils demeurent et ils exerceront leur influence sur notre vie chrétienne jusqu'à la fin. Cette influence a approfondi, élargi et mis en mouvement les sources de l'action dans des milliers de cours. Elle a amené à l'existence des écoles, des maisons d'édition, des institutions médicales qui sont toutes des moyens que Dieu emploie dans cette grande ouvre représentée par le premier, le second et le troisième ange qui consiste à avertir les habitants de la terre du retour du Christ avec une grande puissance et une grande gloire. Mes chers frères et sœurs, je voudrais pouvoir trouver les paroles qui vous fassent comprendre l'importance des temps dans lesquels nous vivons et la signification des événements actuels. Je fais allusion aux mesures agressives qui viennent d'être prises en vue de restreindre la liberté religieuse. Le mémorial que Dieu a sanctifié a été foulé aux pieds et, à sa place, un faux sabbat, qui ne porte aucun indice de sainteté, a été présenté au monde. Et tandis que les puissances des ténèbres sont à l'ouvre sur la terre, le Seigneur, le Dieu des cieux, envoie la puissance d'en haut pour faire face à la situation en poussant ses messagers à exalter la loi des cieux. C'est maintenant le moment de travailler dans les pays étrangers. Quand l'Amérique, le pays de la liberté religieuse, s'unira à la papauté pour forcer les consciences et obliger les hommes à observer un faux sabbat, les habitants du monde entier seront amenés à suivre son exemple. Nos frères et sourds ne sont pas suffisamment éveillés au sens des réalités pour faire, à l'aide des facilités dont point ils disposent, tout ce qui est en leur pouvoir pour l'extension du message d'avertissement. Le dernier message de miséricorde. Le Seigneur, le Dieu du ciel, ne déversera pas ses jugements sur la terre afin de punir la désobéissance et la rébellion avant d'avoir envoyé ses messagers pour l'en avertir. Le temps de grâce ne prendra pas fin avant que le message n'ait été distinctement proclamé. La loi de Dieu doit être exaltée. Le caractère réel et sacré de ses revendications doit être présenté au monde afin que chacun ait l'occasion de se ranger pour ou contre la vérité. Toutefois, dans sa miséricorde, Dieu abrégera cet ouvre. Le message de la justice du Christ doit retentir d'un bout à l'autre de la terre pour préparer la voie du Seigneur et pour révéler la gloire de Dieu. Alors l'ouvre du troisième ange prendra fin. Il n'y a pas d'ouvre plus grandiose, plus sacrée et plus glorieuse, pas d'ouvre que Dieu honore autant que l'ouvre d'évangélisation. Le message qui est proclamé aux hommes aujourd'hui est le dernier message de la miséricorde divine à un monde déchu. Ceux qui ont le privilège d'entendre sa proclamation, et qui refusent obstinément d'y prêter attention rejettent leur dernière chance de salut. Il n'y aura pas un second temps de grâce. Il est écrit, ce sont là les paroles de vérité, le message que nous devons proclamer. Aucun ange à l'épée flamboyante ne se trouve devant cet arbre de vie. Tous ceux qui le désirent peuvent prendre de son fruit. Aucune puissance au monde ne peut les en empêcher. Tous peuvent en manger et vivre à jamais. L'Église du reste portera au monde, sous forme de messages venant de Dieu, la connaissance des mystères dans lesquels les anges eux-mêmes désirent plonger leurs regards et que les prophètes, les rois et les hommes droits de tout temps ont désiré connaître. Les prophètes ont annoncé ces choses et ils ont vivement désiré en connaître la signification. Mais ce privilège ne leur a pas été accordé. Ils ont désiré avec ardeur voir ce que nous voyons et entendre ce que nous entendons, mais ils ne l'ont pu. Ils auront une pleine connaissance de toutes ces choses lorsque Jésus reviendra, alors que, entouré d'une multitude incalculable, il expliquera aux rachetés la merveilleuse délivrance opérée par son sublime sacrifice. Tous doivent être avertis. Tandis que les anges retiennent encore les quatre vents, nous devons travailler de toutes nos forces à la proclamation du message qui nous a été confié, sans perdre de temps. Nous devons montrer aux êtres célestes et aux hommes de notre époque dégénérée que notre religion est faite de foi et de puissance, vertus qui ont leur source en Christ, et que la parole de Dieu est son divin oracle. Les âmes des mortels sont sur le plateau de la balance divine. Elles seront soit des sujets du royaume de Dieu, soit des esclaves du despotisme de Satan. Toutes doivent avoir le privilège de pouvoir s'emparer de l'espérance que leur offre l'Évangile. Et comment en entendront-elles parler si personne ne l'a leur prêché? L'humanité a grand besoin d'une rénovation morale, d'une préparation du caractère afin de pouvoir paraître devant Dieu. Des âmes sont sur le point de périr à cause des erreurs qui prévalent et qui sont voulues de Satan pour contrecarrer l'ouvre du Tout-Puissant. Qui veut se consacrer entièrement au service de Dieu pour devenir ouvrier avec lui? Lorsque vous voyez la détresse et la misère qui rognent dans le monde comme conséquence des machinations de Satan, ne gaspillez pas en de stériles lamentations les forces et les talents que vous avez reçus de Dieu, mais mettez-vous à l'ouvre pour votre salut et pour celui de vos semblables. Réveillez-vous et éprouvez dans vos cours le besoin de travailler au salut de ceux qui périssent. S'ils ne sont pas gagnés au Christ, ils perdront la félicité éternelle. Ayez leur salut à court. L'âme créée par Dieu et rachetée par le Christ est d'une valeur inestimable en raison des possibilités qui s'offrent à elle, des avantages spirituels qui lui sont accordés et des capacités qu'elle peut acquérir si elle est vivifiée par la parole de Dieu, sans parler de l'immortalité qui lui sera conférée par le Christ si elle fait de l'obéissance aux ordres divins la règle de sa vie. Une seule âme a plus de valeur aux yeux de Dieu que tout un monde de richesses, que des maisons, des terres ou de l'argent. Pour la conversion d'une âme, nous devrions être disposés à faire les plus grands sacrifices. Une âme gagnée au Christ fait rejaillir la lumière divine qui dissipe les ténèbres morales et prépare la voie pour le salut d'autres âmes. Si le Christ a laissé les 99 brebis dans la bergerie pour s'en aller à la recherche de celles qui étaient perdues, pouvons-nous nous permettre de faire moins? Ne serait-ce pas nous rendre coupables de trahison envers les vérités sacrées et déshonorer Dieu que de ne pas travailler comme le Christ a travaillé et de ne pas nous sacrifier comme il l'a fait? Faites retentir la trompette sur toute la terre. Dites au monde que le jour de Dieu est proche, qu'il arrive en toute hâte. Que personne n'ignore l'avertissement. Nous pourrions nous trouver à la place de ces âmes qui croupissent dans l'erreur. Nous pourrions être au nombre des barbares. Nous devons faire part à d'autres des vérités qui nous ont été communiquées. Nous n'avons pas de temps à perdre. La fin est proche. Le chemin à parcourir sera bientôt bordé de dangers, de part et d'autre. L'ennemi fera tout ce qui sera en son pouvoir pour obstruer la voie des messagers du Seigneur en sorte qu'il ne leur sera plus possible de faire alors ce qu'ils peuvent accomplir aujourd'hui. Nous devons regarder notre travail bien en face et aller de l'avant aussi rapidement que possible. Dieu m'a montré que les puissances des ténèbres sont à l'ouvre sur la terre avec un grand déploiement d'énergie tandis que Satan s'avance furtivement pour surprendre ceux qui sont endormis, à la manière du loup qui fond sur sa proie. C'est maintenant le moment de proclamer l'avertissement, c'est maintenant le moment de travailler, car les difficultés seront bientôt plus grandes que nous ne pouvons nous l'imaginer. Que Dieu nous aide à rester sur le bon chemin, à travailler les yeux fixés sur Jésus, notre chef, et à avancer patiemment, sans jamais nous lasser jusqu'au jour de la victoire finale. Le peuple de Dieu se trouve en présence d'une tâche immense qui doit occuper une place sans cesse grandissante dans ses pensées. Nos efforts missionnaires doivent redoubler d'intensité. Une ouvre beaucoup plus grande doit être accomplie, avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le peuple de Dieu ne doit pas se relâcher dans son activité jusqu'à ce qu'il ait encerclé le monde des réseaux de ses missions. Nous devons vivre une double vie, une vie de pensée et une vie d'action, une vie de prière silencieuse et une vie de travail intense. Tous ceux qui ont accepté la vérité doivent se faire un devoir d'en faire part à d'autres. Ils doivent être les témoins du Christ aussi bien au bureau que dans l'Église. Dieu veut que nous soyons des épîtres vivantes, connues et lues de tous les hommes. L'âme qui se tourne vers Dieu par la prière quotidienne pour recevoir la force dont elle a besoin, aura de nobles aspirations, une claire vision de la vérité et du devoir, des buts élevés dans l'action et une faim et une soif constante de justice. En demeurant en communion avec Dieu, nous pourrons faire part à d'autres de la lumière, de la paix et de la sérénité qui sont notre partage et placer devant eux l'exemple d'une fidélité à toute épreuve aux intérêts de l'ouvre dans laquelle nous sommes engagés. C'est à l'âme assoiffée qu'est ouverte la source des eaux vives. Dieu déclare, « Je répandrai des eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Celui qui cherche avec avidité la lumière et qui en accepte avec joie chaque rayon qui se dégage de la parole de Dieu, reçoit cette lumière. C'est par de telles âmes que le Seigneur révélera cette puissance qui éclairera toute la terre de sa gloire. »